Et on passe de ces considérations rapportées par Jacques Munier à la Moldavie, Thierry Garcin, le Amélie. Sens de la transition dans les petits matins.
Tout est préparé, rien n'est laissé au hasard.
Exactement.
Second tour de la présidentielle, les premiers enseignements, Nicolas Trifon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sociolinguiste, historien du monde moldave. Alors, on va dire quelques généralités quand même sur la Moldavie. 6 départements français environ, 3,5 millions, 4 millions d'habitants, les chiffres sont indécis. Une fécondité très basse, un enfant virgule 3 par femme en âge de procréer. Alors, c'est un pays très intéressant pour des raisons géographiques, historiques, géopolitiques. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que la frange orientale de son territoire, la Transnistrie, est occupée par des intérêts russes. L'État n'est n'étant pas maître de l'entièreté de son territoire. Alors, les grands indicateurs économiques sont assez inquiétants, Nicolas. On va parler de la situation politique dans un instant. Alors, l'agriculture ne représente que 15% du PIB, l'industrie 17%, 41% de la population vit avec 5 dollars par jour. Alors, un grand scandale, évidemment, parmi d'autres. 1 milliard de dollars a disparu en 2015, soit l'équivalent de 15% du PIB. L'ancien Premier ministre pro-européen ayant été condamné à 9 ans de prison. Et puis, dernière chose, le FMI a suspendu ses aides. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Alors, on va revenir à la situation politique, puisque c'est l'actualité, Nicolas Trifon. Il y avait donc deux candidats, et c'est le candidat pro-russe. Alors, je ne sais pas comment on prononce, Igor Dodon, qui a 41 ans, ancien ministre, comme son opposante, et qui a remporté donc les élections avec, sur 97% des suffrages dépouillés, 55,3% au second tour. Ce n'est pas une surprise, Nicolas Trifon.
Non, pas du tout. Déjà au premier tour, il a frôlé les 50%. Et il a failli dépasser les 50%, donc il a failli être élu au premier tour. Donc ce n'est pas une surprise. La surprise, elle est ailleurs plutôt. Bon, d'abord, pour ce qui est de pro-russe et pro-européen et pro-roumain, disons que pour une fois, et c'est tout le mérite de la candidate Maya Sandu, qui était opposée donc à ce monsieur Igor Dodon, c'est d'avoir justement déplacé un peu, changé un peu la donne, c'est-à-dire que pour une fois, ça n'a pas été centré sur, tout au moins de sa part, sur les questions de géopolitique, mais sur les questions liées à la lutte contre la corruption et sur le contenu de la démocratie dans un pays comme la Moldavie. Alors, donc, là, c'est là la surprise, c'est qu'elle a tenu un discours qui allait dans ce sens. Cela étant dit, concrètement, ce qui s'est révélé décisif, c'est quand même l'argument géopolitique, dans ce sens que pour Dodon, qui s'est affiché aux élections précédentes législatives à côté de Poutine, donc qui est lié à Moscou, finalement, le fait que Maya Sandu, donc notre candidate, ait axé la campagne sur les questions de corruption et de contenu de la démocratie, ça l'a arrangé. Ça a été un avantage pour lui, puisqu'il a pu aussi, ainsi avoir de son côté toute une partie de l'électorat plus modéré, qui n'était pas d'accord sur sa dépendance par rapport à Moscou. Voilà, donc là il y a eu une petite surprise. Elle a fait très peu, et la différence est grande entre les deux, mais cela s'explique aussi par la campagne précédente, c'est-à-dire par les débats qui ont eu lieu. Alors bon, il faut vous imaginer que cette personne, Maya Sandu, n'est-ce pas, elle a été conseillère à la Banque mondiale, c'est une très bonne économiste, elle a été une bonne ministre de l'éducation, alors que l'autre, Igor Sandu, il est économiste aussi, mais il a été économiste, il a été ministre de l'économie à la fin du régime de Voronin. Et donc voilà, c'est un peu ça la donne. Cela étant dit, l'avenir géopolitique de la Moldavie, il est évidemment de nouveau remis en question, bien que, somme toute, on s'attend pas à des changements très importants de la part de Dodon. C'est-à-dire que, et généralement, de ces fractions, c'est un socialiste issu du Parti communiste, d'ailleurs, comme les autres, ses collègues. Alors, on s'attend pas à des grands changements dans la mesure où eux-mêmes, donc les pro-Moscou, ont tout intérêt à conserver des liens avec l'Union européenne. C'est ce qui les valorise, y compris auprès de Moscou.
Alors, justement, oui. Nicolas Trifon, j'ai vu qu'il y avait quand même, en gros, la moitié du commerce extérieur qui se faisait avec l'Union européenne. Il y a un traité d'association ou un accord d'association qui a été signé avec Bruxelles en 2014. Et d'autre part, il y a eu, pour protester contre cet accord d'association, des embargos russes sur les légumes et la viande, ce qui explique peut-être aussi une partie des résultats en faveur du candidat pro-russe. Et d'autre part, M. Dodon donc a dit qu'il, le président maintenant, qu'il dénoncerait ou pas cet accord d'association.
Non, il ne le dénoncera pas. Il n'a pas parlé de dénonciation de l'accord. En revanche, il veut resserrer, et c'est ça l'atout, c'est avec ça qu'il est arrivé, les liens avec Moscou, en partant de l'idée que Moscou va aider, Moscou va distribuer, va donner quelque chose. Et c'est là-dessus qu'il a emporté, mais il ne va pas dénoncer apparemment. On verra maintenant pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est de l'aspect géopolitique, il a pris une position très nette en affirmant que le retour de la Crimée à la Russie était tout à fait naturel, et donc il s'est prononcé là-dessus pendant la campagne électorale. Alors que l'autre candidat, Maia Sandu, avait dénoncé justement l'occupation de la Crimée. Voilà. Donc de ce côté, il n'y a pas de grands changements en vue. On verra maintenant pour la suite. Alors l'essentiel, c'est peut-être cette tentative, mais malheureusement elle a échoué, de déplacer le curseur, c'est-à-dire de se focaliser davantage sur les questions de corruption, de fonctionnement de l'État, de la démocratie, plutôt que sur les aspects de géopolitique qui sont sans fin, c'est-à-dire bon, la problématique roumanophone, russophone, puis Est-Ouest, donc partenariat oriental de l'Union européenne et union douanière avec la Russie. Alors de ce côté, on attend des changements. Cela étant dit, c'est une victoire nette du camp pro-Moscou.
Voilà, alors justement, il faudrait épiloguer sur savoir ce que ça veut dire pro-russe, pro-européen, pro-roumain, mais enfin sur le plan géopolitique, finalement, cette Moldavie, ça reste un pays entre deux, un pays interface, c'est ce qu'on appelle au fond des marches entre la Russie et l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision bicéphale ?
Oui, le principal problème qui se pose ailleurs aussi, d'ailleurs en Ukraine et tout ça, c'est que, somme toute, l'habitus de la plupart des Moldaves, il demeure marqué par l'expérience soviétique. De ce côté, il y a eu effectivement des changements ces 25 dernières années, parce que ça fait 25 ans que la République est indépendante. Il y a eu des changements, il y a eu un retour sur le passé roumain, qui est relativement assez court dans la modernité, c'est l'entre-deux-guerres. Il y a eu un intérêt croissant, surtout auprès de la jeunesse, pour les valeurs européennes et pour les différents aspects de la démocratie, mais l'habitus, il est toujours marqué par ce monde soviétique qui revient sous différentes forme. Cela étant, effectivement, c'est une situation de l'entre-deux. Alors bon, finalement, c'est l'économie, comme tu l'as dit précédemment, les rapports avec l'Union européenne marchands sont très importants, ils dépassent ceux avec la Russie, y compris pour la Transnistrie, si on peut imaginer.
La Transnistrie reste de facto un territoire occupé par Moscou, quand même.
Il y a des soldats de l'armée rouge qui sont toujours localisés là. Alors bon, on ne connaît pas exactement le nombre, on ne connaît pas exactement les dispositifs militaires, mais ils sont là, officiellement ils sont là. Et justement, c'est là que Dodon s'est prononcé pour leur maintien de facto, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il va essayer d'intervenir auprès de Moscou pour que la Transnistrie revienne à la République de Moldavie.
Ben écoutez, on lui souhaite bonne chance.
Une fédéralisation, ce qui impliquerait, du point de vue des roumanophones, une mise à l'écart par rapport aux russophones et par rapport aux gagaouts, etc.
Nicolas Trifon, juste une chose, on ne l'a pas dit, c'est la première présidentielle depuis 1997 et la première aussi au suffrage universel avec un taux de participation assez faible, finalement, 53%.
C'est cela. Oui, finalement,
d'un mot.
Est assez faible, oui. Maintenant, c'est la première fois que c'est au suffrage direct, parce qu'auparavant, élu par les députés, le président de la République. Et ce qui a été décidé justement en mars 2016 par la Cour constitutionnelle pour débloquer la situation, c'était justement qui est ce vote direct.
Voilà.
Maintenant, on verra pour la suite ce qui va se passer, quel gouvernement sera nommé.
On va vous réinviter. On va vous réinviter, Nicolas, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays dont on ne parle jamais, d'ailleurs, généralement. Alors, Nicolas Trifon, sociolinguiste, historien du monde moldave, pour vous réécouter, franceculture.fr, vous téléchargez France Culture. rapport.fr, Émilie.
Merci. Demain. Merci beaucoup, Thierry. Et demain, justement, on part aux États-Unis.
Voilà, les rapports entre le président et le Congrès, avec un éclairage un peu historique. Notre invité sera François de Chantal, professeur à Paris Diderot.